Voilà, ce catéchisme pour adultes est assez dynamique, mais il prend quand même une forme assez classique toutefois. La première année commençait par l'existence de Dieu, ensuite la nature de Dieu, enfin la Trinité, ensuite la création, ensuite l'histoire sainte d'Adam et Ève jusqu'à la réalisation des prophéties concernant un sauveur. Et donc cette histoire sainte a été un des axes de cette première année, parce que je pense qu'on ne peut avoir une idée assez claire dans un catéchuménat de l'histoire du salut en connaissant la profondeur de l'action de Dieu à travers les siècles dans le peuple hébreu pour tous les peuples. Ensuite, cette histoire sainte vient. Avec cette histoire sainte, nous avons touché quelques points de la volonté de Dieu sur les mœurs, sur la morale, et donc aussi sur le fait que Dieu peut parler, que Dieu peut envoyer des prophètes, et des hommes, des femmes d'ailleurs, à travers l'histoire sainte, jusqu'à la venue du Sauveur, du Messie qui a été promis à ce peuple hébreu. Ensuite, nous avons pris la vie du Christ avec les quatre évangiles compressés en un seul pour avoir tous les épisodes de la vie du Christ qui sont dans un des quatre évangiles et avec un suivi chronologique. Dans la vie du Christ, il y a les trois évangiles qu'on appelle synoptiques parce qu'ils suivent un plan identique au point de vue de la chronologie, qui sont Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Saint Matthieu est un apôtre, un des douze qui a été choisi par le Christ. Il est le témoin oculaire particulièrement vivant et détaillé. Il était banquier, n'est-ce pas? Il était publicain et tout est bien précisé. Ensuite, vous avez Saint Marc, qui lui était un disciple, mais qui a été témoin oculaire sans doute de manière moins proche qu'un des douze apôtres, mais tout de même. Et il a été un compagnon de Saint Pierre. Un moment Saint Paul, ils se sont disputés, ils se sont réconciliés avec. Nous verrons ça dans les Actes des Apôtres. Saint Marc a été, dans les dernières années de Saint Pierre, son secrétaire. Et donc, nous avons des détails qui viennent de Saint Pierre lui-même, dans l'évangile de Saint Marc. Ensuite, vous avez Saint Luc, qui lui aussi est un disciple, mais qui lui recueille plus de témoignages qu'il n'a vu lui-même. Et il a recueilli le témoignage de la Vierge Marie. Et c'est la raison pour laquelle il donne des détails que la Vierge Marie lui a donnés. Il était médecin et il était peintre. Et donc nous avons au moins deux peintures de Saint Luc représentant la Vierge Marie qui ont été, comment dire, entretenues par les fidèles, parfois réparées, mais il y a au moins deux icônes qui sans doute viennent de Saint Luc. Vous verrez que dans ce catéchisme, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la tradition orale de l'Église et que je serai sans doute un peu de temps en temps ironique sur ceux qui remettent en doute tout ce qui est de la tradition orale de l'Église, qui est à mon avis très précieuse, comme par exemple ceux qui vont relativiser ce que je vais vous dire. Donc les trois évangiles synoptiques, c'est Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, et eux ont la même chronologie. Alors les uns donnent un détail que l'autre ne donne pas, un fait que l'autre ne donne pas, mais c'est le même schéma. Saint Jean, lui, est apôtre et va écrire l'Apocalypse lors d'un exil sur l'île de Patmos. Il a failli mourir martyr, on l'a plongé dans une cuve d'huile bouillante à Rome, près de la porte latine. Il en est sorti frais, pas comme un gardon, mais presque, comment dire, avec une peau de bébé, n'est-ce pas, une peau de pêche. Il n'en est pas mort du tout, et ça a très impressionné ses bourreaux, bien sûr. Et il est mort vers l'âge de 95 ans. Et avant de mourir, étant donné qu'il y avait les premières erreurs, les hérésies, je choisis. En grec, la racine du mot hérésie, c'est je choisis ce que je veux croire et ce que je ne veux pas croire par rapport à tout ce qui m'a été révélé. Le dépôt de la foi. Et donc, c'est la divinité du Christ qui était attaquée. Et donc, Saint Jean va écrire spécialement cet évangile. Donc, l'Apocalypse date des années 70. L'évangile de Saint Jean date des années 90. Et alors, il se sent très libre par rapport aux trois évangiles qui existaient déjà, et il va suivre une chronologie qui lui est plus particulière, et va entrer dans des détails, et dans non seulement des souvenirs, mais une assistance bien sûr de l'Esprit Saint, pour ce qu'on appelle l'inhérence des Écritures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur substantielle dans les Écritures. Voyez. Si l'un dit qu'ils étaient deux, et l'autre qui dit trois, et l'autre qui était qu'ils étaient un dans le nombre de lépreux, ou s'il y avait un lépreux et l'autre dit qu'il y en avait 10, c'est parce que un des évangélistes va se focaliser sur un des 10 lépreux, et l'autre précise qu'il y en avait 10, mais voyez-vous, il n'y a pas de contradiction ou d'erreur. Alors certains vont dire que Saint Jean, l'apôtre, n'était pas Saint Jean, l'évangéliste. Oh, ça se dit depuis environ, 50 ans peut-être. Oh, peut-être qu'il y en a, il y a 150 ans qui ont voulu déjà être célèbres en disant que les deux étaient séparés. Et là, actuellement, vous avez des livres entiers peut-être sur la question, parce qu'il y a des gens qui n'ont que ça à faire. Eh bien, donc, pour ma part, de par mes petites ironiques auxquelles j'espère vous vous habituerez, eh bien, il est bien évident que l'apôtre et l'évangéliste sont la même personne. Voilà. Et ce n'est pas 1800 ans après des faits avérés et jamais mis en doute qu'on va commencer à dire « Ah, mais peut-être que... » Voyez. Voilà. Alors, donc, cette année, nous allons terminer la vie du Christ. Nous allons... Donc, les quatre évangiles en un seul. Je vous demanderai, pour ceux qui ne l'ont pas encore, de vous indiquer à la fin, pour que je puisse les recevoir de bienfaiteurs, donc c'est gratuit. Hein, donc, c'est le chanoine Weber qui avait fait un résumé des quatre évangiles en un seul. Et qui a été réédité par les moines de Flavigny. Donc certains d'entre vous l'ont déjà, ceux qui ne l'ont pas, qui n'hésitent pas à me le dire, puisque je vais le lire, mais je le commande tellement que finalement vous n'avez peut-être pas besoin de l'avoir nécessairement sous les yeux, mais c'est toujours bon, d'autant plus que c'est une vision qui regroupe Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, unis. Ensuite, nous aurons les actes des apôtres et l'enseignement moral de l'Église. Nous nous inspirerons et nous lirons des épîtres de Saint Paul, plus particulièrement, mais sans oublier Saint Jacques et Saint Pierre. Et pour ensuite parcourir les dogmes qui ont été... donné à la Sainte Église par le magistère infaillible, sans faire l'histoire de l'Église, puisque ça sera vous avez un cours d'histoire de l'Église détaillé, avec aussi bien le développement théologique, mais aussi les confrontations avec les autorités publiques et avec l'histoire des pays par l'abbé Éric Iborra, que vous avez vu, qu'il fait ce cours ici même le jeudi soir. Donc, je récapitule. Première année, nous avons vu l'existence de Dieu, la Sainte Trinité, la création, les anges, l'homme, l'histoire sainte, les prophéties du Messie réalisé et la vie du Christ. Nous allons en deuxième année achever la vie du Christ, voir les premiers pas de l'Église avec les actes des apôtres, l'enseignement moral et les dogmes que nous n'aurions pas vus avec tout ce que nous avons fait auparavant. Donc voilà cette année. Donc c'est beaucoup plus évangélique, hein, c'est lecture suivie des évangiles, en prenant tout ce qui peut être aussi bien sûr de la foi, les mœurs également, mais tout ce que nous n'aurons pas vu précisément, nous le verrons de manière plus académique dans un deuxième temps, après avoir terminé la lecture des quatre évangiles et la lecture aussi des actes des apôtres avec les épîtres de Saint Paul et déjà la morale par Saint Paul. En ce qui concerne les livres, vous avez un catéchisme qui est celui du chanoine Quinet, Quint, qui est connu pour être le catéchisme à l'usage des diocèses de France. Ce catéchisme par question-réponse est un excellent catéchisme qui était aussi bien qui était théoriquement pour les enfants. Vous avez le catéchisme de Saint Pie X, qui était en fait un catéchisme pour le diocèse de Rome, qui a été salué par le pape à l'époque, Saint Pie X. Catéchisme de Saint Pie X de 1905, catéchisme à l'usage des diocèses de France, rédigé par le chanoine Quinet en 1947, vous pouvez le retrouver comment dire, réédité, hein. Il faut simplement, c'est le catéchisme à l'usage des diocèses de France du chanoine Quinet. Si certains le veulent, on verra dans l'année pour faire une commande groupée éventuellement. Vous avez le catéchisme de l'Église catholique de 1992. Vous avez le compendium COMPENDIUM de Benoît XVI, qui est un résumé du catéchisme de l'Église catholique abrégé en CEC 1992. Compendium de 2005. Ensuite, vous avez d'autres petits catéchismes qui ont existé. En ce qui concerne la Bible, je vous conseille la Bible des écoliers. Vous allez me dire, déjà un catéchisme pour les enfants avec le chanoine Quinet, la Bible des écoliers aux éditions Teki. Eh bien oui, parce que je peux vous assurer que le contenu du chanoine Quinet et de la Bible des écoliers, ça c'est une histoire sainte qui est bien supérieure à des ouvrages contemporains qui vous noient ou qui disent que des choses n'ont pas existé alors qu'elles ont existé. Oui. Autant aller à la source, à des choses très simples qui faisaient la foi des générations jusque dans des décennies relativement proches. Il y a eu des petites difficultés de transmission de la foi. Donc, Chanoine Quinet et Bible des écoliers de Teki, cette Bible des écoliers, c'est en fait une Bible pour enfants de Monseigneur Serfaux, Serfaux, qui était un prélat, qui n'était pas évêque, qui était professeur à l'université de Louvain et consulteur de la commission biblique. Vous voyez? et qui est un résumé de la Bible qui vous permet de ne pas vous noyer dans la Bible. Je peux vous assurer que si vous lisez la Bible des écoliers, aux éditions Teki, vous en saurez plus que ceux qui ont essayé de lire la Bible de la première page à la dernière page et qui se sont noyés. Vous voyez, complètement noyés. Voilà. Donc, vous voyez, il faut savoir, pour avoir une foi limpide et claire, prendre des ouvrages qui sont très simples. Si vous voulez faire un peu de théologie, vous avez pour connaître la théologie de saint Thomas d'Aquin, vous avez « Initiation à la théologie de saint Thomas d'Aquin » du dominicain, du révérend père Raphaël Sineux, S-I-N-E-U-X, qui résume la somme de saint Thomas d'Aquin. Là aussi, ça a été réédité. Les éditeurs, c'était Desclés et compagnie, à mon avis, ça a peut-être été réédité de manière différente. Enfin, vous avez aussi d'autres ouvrages dont on parlera plus tard pour commencer dès ce soir à reprendre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà donc le début de ce catéchisme pour adultes en cette deuxième année. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première année, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que nous lisons ? Nous lisons un évangile, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle ? Cette bonne nouvelle, c'est que il y a l'un d'entre nous, Jésus de Nazareth, qui est un véritable homme et qui est le véritable Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, à cause du péché, c'est-à-dire de l'orgueil et de l'envie, de l'intelligence et de la volonté, eh bien, nous nous sommes détournés de la fin pour laquelle Dieu nous a créés, c'est-à-dire aimer, vouloir du bien, être bienveillant et être aimé, c'est-à-dire recevoir aussi cet amour et cette bienveillance d'un autre être. Vous avez plein de petites créatures qui sont créées pour des fins plus ou moins amusantes. Les mouches ont été créées pour nourrir les oiseaux. Les crapauds, les grenouilles, oui, en quantité. Et vous avez des écosystèmes très amusants où vous voyez une intelligence supérieure nourrir dans une chaîne alimentaire impressionnante et pas du tout due au hasard un certain nombre d'animaux. Vous me direz pourquoi Dieu a créé des oiseaux avec des plumes splendides et des couleurs extraordinaire et d'autres gris. Eh bien, c'est la fantaisie de Dieu. Mais je ne peux pas refaire la première année, mais toutefois, je fais une petite introduction quand même avant d'arriver à notre Seigneur. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est que ce Dieu créateur, si intelligent et si volontaire, a voulu parmi ce foisonnement d'idées et d'imagination artistique et fantaisiste qu'il a eu, donner la terrible responsabilité de l'intelligence et de la volonté à des êtres. Nous avons vu qu'il a donné cette liberté, cette intelligence et cette volonté aux anges, qui sont des êtres sans matière. Et il a voulu couronner la création animale en mettant un esprit, comme les anges, dans un corps animal. Sauf que du fait que nous ayons un esprit capable d'abstraction et immortel, nous ne sommes plus vraiment de purs animaux. Certes, dans la philosophie antique, on dit que l'homme est un animal social, et nous sommes des animaux par notre corps, c'est bien évident. Mais nous avons quelque chose en plus, qui est notre esprit. Et cette union qui fait la nature humaine est chose merveilleuse à nos yeux. Mais plus merveilleuse encore pour un Dieu qui nous aime comme ses enfants. On dit que tous les hommes sont enfants de Dieu. C'est vrai, mais plus particulièrement lorsque nous le reconnaissons comme Père. Voyez. Et c'est là que se posera la question de la multiplicité des religions et par rapport à la religion qui dit explicitement que Dieu est Père. Et d'autant plus que nous rejoignons cette paternité en reconnaissant la filiation de son Fils, qui est sa parole, sa pensée éternelle, qu'il appelle son Fils, et qui marque justement son existence par l'incarnation et le fait qu'il se soit uni à une nature humaine. Une nature humaine pleine et entière, c'est-à-dire avec un corps, un vrai corps. Et nous verrons qu'il y a des hérésies qui disent que c'est pas possible que Dieu ait un vrai corps associé à lui. C'est pas possible. Il dort, il se mouche, je vous passe les détails. C'est pas possible que Dieu se fasse aussi faible ou... Eh bien si, un vrai corps. Pas un corps fantomatique, pas un corps d'emprunt comme des anges peuvent en user pour se rendre visible et nous impressionner ou entrer en relation avec nous. Un vrai corps, avec de la chair et des os comme les esprits n'en ont pas. Une véritable âme humaine. Sinon, Jésus ne serait pas un homme. Donc c'est un esprit immortel créé. Et Dieu ne crée les âmes humaines à chaque conception, à chaque union d'un homme et d'une femme, et à chaque rencontre entre les deux noyaux de l'homme et de la femme qui s'unissent et se multiplient. Dieu, à ce moment-là, crée une âme. Alors, il y a eu des discussions dans les siècles passés pour savoir à quel moment il y avait une âme spirituelle, une âme humaine, qu'il n'y aurait pas eu des animalcules, si vous voulez, que l'amas de cellules qui se multiplient, qui se divisent, serait peut-être encore un animal, qu'il n'y aurait pas, qu'il y aurait un principe de mouvement qui ne serait pas humain, que cette multiplication de cellules ne serait pas humaine. Certains disaient 40 jours pour avoir une âme humaine, ou 80 jours pour les filles. Vous voyez, voilà. L'Église dit tout ça, c'est des discussions philosophiques, mais c'est un processus vital et nous présumons qu'il y a une âme humaine dès le début, d'autant plus que saint Thomas d'Aquin précisait bien que pour le Christ, dès le premier moment de sa conception, il a eu une âme humaine. Alors que lui-même adoptait la discussion sur les 40 jours, parce qu'on présentait les bébés au bout du 40e jour dans l'Ancien Testament. Les garçons, les filles au bout du 80e jour. Voilà, donc c'était un peu ténu comme argument théologique et voire et philosophique. Cette âme humaine fait du Christ un homme. Alors ce qui choque, voyez, comment Dieu peut-il s'unir à une créature? Eh bien, la seule réponse, c'est par amour. C'est ténu comme réponse, ça fait un peu mièvre. Eh bien, si, c'est par charité, si vous préférez, puisque le mot amour est galvaudé, mais parce qu'il nous aime. Et qu'il veut, premièrement, et il y a une discussion là-dessus aussi, il veut nous sauver. Et pour nous sauver, il faut que l'un d'entre nous offre sa vie pour nous racheter du péché. Le péché, c'est, nous l'avons vu donc en première année, c'est dire Dieu, on peut concéder qu'il existe? Je ne t'aime pas, je ne t'obéis pas, tu n'es pas mon Père, fuis ma vie, je suis seul au monde, je suis tout puissant, je n'ai pas de dépendance vis-à-vis de toi. Fondamentalement, le péché, c'est ça. Je peux vivre sans toi. Voyez, c'est le fleuve qui dit à sa source, je peux couler sans ma source. Je peux exister sans toi. Or, l'existence, elle vient de celui qui peut donner l'existence. Et je vous disais que Dieu est l'être par lui-même. Il est l'être. Tandis que tous les autres êtres que Dieu reçoivent l'être. En latin, on dit « ens asse », l'étant l'être par lui-même, « a » par « c-s-e » par lui-même, et pour les créatures, « ens ab alio »,« ab » c'est « a » avec la, parce qu'il y a une voyelle, « ab », l'étant, « ens », « e-n-s », « ab » par « alio », un autre. Et cet autre, c'est le Tout-Puissant, c'est le Créateur, c'est celui qui existe de toute éternité. Eh bien, voyez-vous, à cause du péché, pour faire court et pour ne pas reprendre l'histoire sainte, Dieu a promis un sauveur. Il l'a promis à la première femme, unie au premier homme, Adam et Ève. Je ne peux pas tout vous refaire. Donc nous allons maintenant développer cette vie de cet homme, Dieu, qui vient nous sauver. Et nous allons voir comment il révèle délicatement ce mystère, c'est-à-dire cette vérité qui n'est pas absurde et contraire à la raison, mais qui est au-dessus de notre raison. Homme, Dieu, Dieu, homme, ça c'est affreux, c'est pas possible. Eh bien, si... Et surtout, Dieu qui va mourir. Oh, Dieu qui meurt, c'est pas possible. Dieu est mort, signé Nietzsche. Et à la mort de Nietzsche, c'est moi qui l'invente, hein, est apparu sur un mur, Nietzsche est mort, signé Dieu. Oui. C'est les... Comment dire, nous... Nous sommes bien mortels. Et donc, ce mystère de cet homme-Dieu, c'est le mystère aussi des mérites infinis de son innocence. Il est agneau de Dieu. Adam et Ève, le premier couple humain, et dans la foi catholique, ce n'est pas une idée. Adam et Ève est un couple historique qui a vraiment existé. Et qui... dont nous descendons tous. Décidément, je vous refais toute la première année, mais il faut pas que je me laisse aller. Nous avons tous le même ADN, nous avons tous les mêmes cellules, et il aura un grand prix Nobel, celui qui va dire comment les acides aminés s'associent pour qu'on ait les yeux bridés, ou les cheveux crépus, ou le teint blanc, ou le teint noir. Et je crois qu'il n'est pas encore né celui qui va savoir comment l'ADN, comment dire, les acides aminés s'associent pour ça, parce que c'est tellement infinitésimal dans l'ADN. Et cette nature humaine, elle aurait dû mourir dès le premier instant. Et nous verrons dans cet évangile que je vous présenterai pas de manière très mièvre que nous pouvons mourir. Et même par la volonté de Dieu. Et qui punit, ou qui laisse mourir. Et ça, nous devons le développer parce que ça peut choquer certains. Et donc, cette mort d'Adam et Ève leur a été épargnée. Et donc, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'innocent qui a pris cette mort sur lui. C'est la croix. C'est le saint sacrifice du Vendredi Saint, qui est rendu présent par le geste du Christ le soir du Jeudi Saint, de manière non sanglante, par le pain et le vin, consacrés en son corps et en son sang séparés. Ainsi donc, la foi chrétienne consiste à croire que Dieu est un Père qui a vu les esprits qu'il a créés pour aimer et être aimé choisir l'orgueil et l'envie, et a voulu leur donner la liberté et les racheter par son Fils, par son innocence, par son offrande volontaire et par son humanité, avec les mérites infinis d'un Dieu qui s'humilie. Et voilà la foi chrétienne, qui a été annoncée à travers les siècles, plus particulièrement par un petit peuple, le peuple juif, qui fait beaucoup parler de lui, et il fera parler de lui jusqu'à la fin des temps, parce que saint Paul nous dit que de manière importante, le petit peuple juif deviendra catholique, je précise bien catholique, à la fin des temps, face à l'Antéchrist. Mais nous verrons cela. Venons à cet évangile et découvrons avec le petit peuple juif cet homme envoyé de Dieu, au moins prophète, au moment où nous le prenons.